Lizzie présente Polly de Nicolas Vanier avec la collaboration de Virginie Jouannet. Lue par Nancy Philippot. Été 1964. Chapitre 1. La veille d'embarquer, pour le voyage de leur nouvelle vie, Louise avait chargé à ras-bord la décapotable. Dans le coffre, elle avait casé une cantine remplie de vaisselle, leur vieille valise, deux lampes de famille et des gravures encadrées. Soucieuse d'amuser sa fille autant que par commodité, elle avait façonné une sorte de nid sur la banquette arrière, avec leurs couvertures, les coussins et une pile de draps. La moitié de cet espace était mangée par quatre énormes cabas remplis des produits de première nécessité. Une poêle, la cocotte minute reçue en cadeau de mariage et une batterie de casseroles. Un panier des jouets rescapés d'un tri draconien, un porte-documents contenant photos et paperasses, un sac plein de chaussures. Au sol, livres, cahiers et albums formaient une sorte de marchepied. Juste avant de prendre la route, elle y déposa une boîte à couture et leur pique-nique, avec deux gourdes d'eau aromatisées d'anthésite. Le voyage prendrait plus de 12 heures. À l'avant s'empilait son matériel d'infirmière et une table de chevet, quelques bouquins et ses babioles fétiches, un miroir hérité de sa grand-mère, son sac et trois chapeaux en paille. Plus que tout le reste, ses capelines fanées, en promettant des jours d'été interminables, combattaient la mélancolie du départ. Cécile, insensible à l'appel du Sud, avait quitté son école du 15e arrondissement en larmes, refusant catégoriquement de s'intéresser à leur future existence. Leur appartement, situé rue Daigneault, se composait de trois pièces où la famille avait vécu heureuse avant l'affreux divorce. Son papa pouvait surgir n'importe quand, carillonnant son impatience à la porte. Et peu importe si cela n'était arrivé qu'à 2 reprises en 6 mois, la fillette détestait qu'on l'arrache à son univers familier. Le seul avantage à descendre au sud, c'était la frontière italienne et la proximité de Turin, où son père travaillait à bâtir un barrage. Sur la carte, une dizaine de centimètres séparait la ville italienne de Beaucastel. Malgré cette maigre consolation, Cécile avait l'impression que partir sonnait un peu comme une trahison. Y aurait-il seulement un facteur dans ce trou paumé à la campagne? Par précaution, elle lui avait écrit la veille, sa dernière lettre de Paris, jurant qu'elle l'attendrait dans le nouveau village et que maman aussi languissait, une expression dont raffolait leur institutrice, Madame Vanbrou. Bien sûr, ce n'était pas l'entière vérité, ou alors une vérité arrangée, au bon profil. Maman ne parlait jamais de papa, à croire qu'elle s'en fichait totalement. Après 300 kilomètres, lasse de regarder le défilé de champs et les tristes maisonnettes blotties sur le bord de la route, la fillette s'était assoupie. À son réveil, elles avaient déjeuné dans un parking qui offrait des tables à l'ombre, adossées à une station Esso. Le porte-clés bonhomme à tête de goutte d'huile, distribué pour le plein d'essence, l'avait secrètement amusée. Mais bien décidée à bouder, Cécile feignit l'indifférence. De retour sur la banquette arrière, elle se plongea dans Alice au pays des merveilles. C'était un cadeau de son père et son livre préféré entre tous. Alice lui plaisait parce qu'elle se montrait solitaire, bizarre, à la fois étourdie et courageuse, extravagamment curieuse et naïve jusqu'à braver l'impossible. Cécile aurait aimé la voir pour sœur ou pour meilleure amie. Elle commença sa lecture, mais la chaleur de ce début de juillet, additionnée au cahotement des roues sur la chaussée, finit par l'écœurer légèrement. Elle attrapa la gourde et but une lampée avant de grimacer, en découvrant que c'était seulement de l'eau. Elle se rappela que sa mère l'avait remplie aux toilettes de la station essence. En soupirant, elle colla son nez au carreau. Platane, banane, soutane, récita-t-elle à voix basse. Platane, aéroplane, bécane, sarbacane, gitane, pyromane. Tu ne lis plus ? Sa mère avait le don de clamer des évidences. Elle se renfrogna et haussa les épaules en guise de réponse. Tu m'en veux encore ? Cette fois, Cécile se décida à croiser son regard dans le rétroviseur. Louise avait l'air épuisée. La fillette refoula aussitôt une bouffée de remords qui menaçait de l'attendrir. Tu le sais très bien. Si Lou, il fallait bien que je trouve une solution. Je ne supportais plus de vivre à Paris, et je me suis fâchée avec mon chef de service. Je te l'ai expliqué. À Beaucastel, on m'offre un logement et du travail. Tu parles. C'est même pas dans un hôpital. Tu l'as dit toi-même. C'est juste. Je serai à mon compte, et c'est un peu comme se lancer à l'aventure, mais l'avantage de mon métier, c'est qu'on ne chôme guère. Ça m'est égal, de toute façon. Oh, ça, j'en doute fort. Chérinette, je sais bien que tout te paraît difficile pour l'instant, mais tu vas adorer ce village. J'y étais si heureuse à ton âge. J'aurais rêvé d'y vivre toute l'année. Toi, c'est pas moi, maman. Alors ne me commande pas d'être contente. Je ne te demande rien de ce genre, Silou. Songe seulement qu'on va vivre au soleil et au bon air dans un endroit magnifique. Paris devient de plus en plus impossible avec le trafic. D'ailleurs, tu as tout l'été pour t'accoutumer avant d'aller à l'école du village. Et tu te feras plein de copines, j'en suis certaine. Je m'en fiche, c'est mes copines de Paris que je veux voir, et papa. Louise poussa un soupir agacé. Dès que l'on faisait allusion à son père, c'était toujours pareil. Ce n'est pas possible pour le moment. Tu sais bien qu'ils travaillent. Pour mettre un terme à leur dispute, la jeune femme entreprit de chercher Europe numéro 1 sur le cadran gradué de l'autoradio. L'émission « Salut les copains » venait juste de commencer. Et en dépit de quelques craquements, Twist à Saint-Tropez explosa dans l'habitacle, chassant l'épuisement des heures de conduite. Cécile était bien trop fière pour s'amadouer tout de suite. Mais quand sa mère commença à fredonner « Vous permettez, monsieur » sur la voix cassée d'Adamo, elle ne put s'empêcher de glousser. Ravie, Louise enchaîna avec les tubes que c'est triste Venise, demain tu te maries, et tous les garçons et les filles que la fillette reprit à tue-tête, oubliant son humeur morose. La grisaille de la matinée n'était plus qu'un lointain souvenir. Le soleil avait tapé dur toute la journée, mais il n'était pas question de rouler sans capote avec le barda du déménagement. Heureusement, vers 18h, un vent plus frais les soulagea. La voiture abandonna l'interminable National 7 à la hauteur de Pont-Saint-Esprit pour emprunter de petites routes d'une campagne vallonnée. Soudain, le paysage parut s'élargir jusqu'à toucher le ciel immense d'un bleu pur, presque irréel. Elles passèrent une vallée étroite entre vignes et forêts et suivirent les méandres d'un cours d'eau filant en contrebas, longèrent des prairies puis, çà et là, des coteaux raides et courts, hachés par le jaillissement d'une falaise calcaire qui démentait la douceur de la terre, laissant entrevoir une part de sauvagerie. Quand Cécile aperçut le premier champ de lavande, elle sentit fondre sa résistance. Le violet dévalait les flancs d'un village minuscule chapeauté d'un clocher. C'était si beau qu'elle en eut le souffle coupé. Louise avait éteint la radio. Elle se garda de parler pour ne pas gâcher l'enchantement. Cela faisait plus de 20 ans qu'elle n'était pas revenue ici. Pourtant, sa mémoire gardait intacte une émotion profonde, le même émerveillement qui faisait écarquiller les yeux de sa fille. Elle masqua un sourire et s'autorisa un élan d'optimisme. Ce nouveau départ était leur chance. Il le fallait. Absolument. Chapitre 2. Perché en haut d'une colline, le village de Beaucastel semblait inchangé depuis des siècles. Avec ses ruelles pavées, ses grandes voûtes obscures, ses pierres blanches et sèches de maisons aux ouvertures étroites. Sur un surplomb rocheux, un vieux château coiffé d'un donjon à demi écroulé, flanqué d'une tour carrée, semblait veiller sur lui, ou l'écraser, selon la lumière et l'humeur du promeneur. Le maire, un dénommé Lucien Bouy, gardait les clés de leur nouveau logis. Louise n'eut pas à toquer. Il apparut sur le seuil de sa demeure, alors que le moteur tournait encore. C'était un bonhomme courtaud, dont la bedaine pointait sous une chemise à carreaux. Cécile décida que sa mine avenante légèrement ahuri, faisait penser au lapin blanc d'Alice.